Bonjour à chacun. Alors, vous avez peut-être vu, en vous préparant à ce culte, dans le Frat News, le thème de la prédication. Ou alors vous l'avez découvert ce matin devant cette slide. Libre ou esclave? Et j'imagine que vous avez déjà une réponse toute faite à cette question. Libre ou esclave? Êtes-vous libre ou esclave? Je ne suis pas sûre d'être spécialement fortiche pour parler de cette thématique. J'aimerais plutôt vous proposer ce matin qu'on puisse y réfléchir ensemble à travers un texte et puis arriver finalement à une certaine conclusion ensemble, peut-être commune, peut-être qu'on aura des avis différents. Et j'aimerais vous encourager à garder cette réponse que vous avez dans votre tête déjà à cette question libre ou esclave et à voir au terme de notre méditation si cette réponse a changé ou si les raisons pour lesquelles vous donnez la même réponse ont changé. Alors j'aimerais commencer par vous poser une question à laquelle vous avez le droit de répondre, ce n'est pas une question rhétorique. Est-ce qu'il y a des phrases que vous répétez sans cesse à vos enfants? Vous dites toujours la même phrase, ou quand vous souvenez-vous quand vous étiez enfant, est-ce que vous vous souvenez que vos parents vous ont toujours répété les mêmes phrases encore et encore? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme ça? Range ta chambre, voilà, c'est exactement celle que j'espérais en premier, j'étais sûre que ce serait la première. Range ta chambre. Et chaque jour, on dit aux enfants, range ta chambre, même plusieurs fois par jour. Range ta chambre, range ta chambre, range ta chambre. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Mange ta soupe. C'est les souvenirs d'enfance. Mange ta soupe, ouais. Ou mange tes légumes, parfois. Débarrasse tes couverts. Mm-hmm. On doit le répéter encore et encore. Est-ce que tu t'es lavé les mains? Est-ce que tu t'es lavé les dents avant d'aller dormir? Qu'est-ce que t'es maladroit? Ah ouais. Qu'est-ce que t'es maladroit? Un peu plus dur à entendre. Hein. Tiens-toi droite. Ouais. Apparemment, on a tous entendu les mêmes phrases dans notre enfance. Alors, c'est vrai, ces phrases qu'on répète encore et encore aux enfants, pourquoi finalement on ne peut pas simplement leur dire une fois, il faut que tu ranges ta chambre, c'est comme ça qu'on vit chez nous, et puis que chaque jour, l'enfant range sa chambre automatiquement, ça serait tellement plus simple, non? Et pourtant, on doit répéter des choses encore et encore. Ça dégage un sentiment de frustration quand même, quand on est parent, j'imagine, et aussi quand on est enfant, finalement, d'avoir toujours les mêmes ordres, ça agace, on râle, etc. Et j'aimerais qu'on garde cette idée, ce sentiment de frustration de devoir répéter des choses sans que la personne en face de nous la comprenne. Quand on va lire tout à l'heure un texte de l'Épître aux Galates, et je pense que ce sentiment de frustration devait être aussi celui de Paul. Gardons-le à l'esprit. Alors les Galates, le texte que nous lisons ce matin, cet épître qui a été écrite aux Galates, qui sont-ils ces Galates ? Dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs épîtres qui ont été écrites par Paul qui s'adressent la plupart du temps à des habitants d'une ville, donc les églises qui s'étaient formées dans une ville. On a les Romains, les Corinthiens, les Éphésiens à Éphèse, voilà, Corinthe, Rome, Thessalonique, ce sont des villes, et Paul s'adresse à ces habitants d'une ville qui ont formé des églises. Les Galates, c'est un peu particulier parce que finalement, c'est pas une ville, c'est une région, c'est toute la Galatie. Et puis dans cette région, il y a plusieurs villes. Alors je vous ai mis une carte. Mais si vous trouvez que vous devriez réviser vos voyages de Paul, vous pouvez poser des questions aux enfants de notre église parce qu'ils sont en plein dans la thématique des voyages de Paul. Donc ils pourront vous dire ce que Paul a fait dans chaque voyage ou à peu près. Si vous voulez faire une révision, vous pouvez leur demander. Mais voilà, il y a différentes villes qui se trouvent en Galatie. Donc c'est les villes qui sont plutôt vers le nord, Derbe, Icône, Lystre, Antioche. Ça, c'est la région de la Galatie. Et Paul, quand il s'adresse aux Galates, il s'adresse à toute une région, donc pas seulement une ville. Et puis ce qui est frappant, en fait, ce que j'ai découvert en préparant cette prédication, c'est que c'est la seule région dans laquelle Paul a été systématiquement à chacun de ses voyages. Premier voyage, il y passe. Il dit des choses aux Galates, il leur annonce l'évangile. Deuxième voyage, il y repasse, encore une fois, avant de continuer plus loin. Il redit les mêmes choses, probablement, aux Galates. Troisième voyage, il y repasse. Il redit de nouveau les mêmes choses aux Galates. Et puis, quatrième voyage, il n'y passe pas. C'est un peu particulier, puisqu'il est emmené de force à Rome. C'est la seule région dans laquelle Paul passe encore et encore à chaque voyage pour répéter les mêmes choses. Et pourtant, pauvres Galates, ils laissent derrière eux une des épîtres les plus virulentes du Nouveau Testament, où Paul désespère de ces Galates qui n'ont absolument rien compris. Il leur fait beaucoup de reproches dans cette épître. Il leur dit « Vous avez abandonné le message du Christ avec une telle rapidité. » Pourtant, Paul était passé encore et encore, et ils avaient oublié. Tout comme nos enfants qui oublient de ranger leur chambre alors qu'on leur dit encore et encore. Quelle frustration pour Paul. Ils sont insensés. Je pense, j'ai pas vérifié, je devrais vérifier que c'est la seule fois où Paul s'adresse à ses lecteurs en disant « Vous êtes insensés. Vous êtes insensés, vous avez perdu la raison, vous avez perdu le sens. » Ils se sont laissés envoûter par des perturbateurs et Paul craint que la peine qu'il s'est donnée pour eux n'ait été inutile. Tous ces voyages inutiles, les Galates ont tout oublié. Alors pendant plus de la moitié de l'épître aux Galates, Paul rappelle tous les rudiments de la foi, tout l'évangile qu'il avait déjà annoncé, il le répète encore une fois, comme si ces Galates avaient absolument tout oublié depuis ces voyages. Alors j'aimerais faire un rapide résumé de ces choses que Paul répète. Je me permets une introduction un peu plus longue ce matin avant de lire notre texte, parce que je crois que c'est vraiment important de comprendre tout ce que Paul apportait à ces Galates avant que nous lisions le texte qu'on va lire ce matin. Ce qu'il leur rappelle, c'est tout ce qu'ils ont découvert dans la foi chrétienne. Et puis Paul, dans sa lettre, dit, enfin laisse entendre qu'apparemment tout ça a été balayé par des personnes qui sont venues probablement de Judée, si on lit les Actes, de Jérusalem ou des alentours, et qui ont remplacé le message que Paul avait apporté par un autre message. Ces hommes, ces personnes-là, sont comme des perturbateurs qui viennent imposer des règles aux Galates. Et notamment, c'est des règles qui sont liées au judaïsme. Alors que Paul avait annoncé une liberté de la foi, ces personnes-là viennent annoncer aux Galates, finalement, il faut quand même se circoncire. Il faut respecter les fêtes, le calendrier juif. Il faut s'attacher à la loi juive, la loi de Moïse. Donc, ils viennent apporter des nouveaux, enfin, rapporter des anciens éléments aux Galates que Paul avait mis de côté. Alors, tout le message de Paul dans l'épître aux Galates, c'est « Mais vous n'avez vraiment rien compris. Vous n'avez rien compris de ce que j'ai apporté. Tout ce que j'ai amené, ce message de liberté, vous l'avez mis de côté de nouveau. » C'est un peu comme si, finalement, on délivrait quelqu'un de prison, on le faisait sortir de sa cellule, et puis finalement, ses gardiens, ses geôliers, revenaient vers lui et lui disaient « Ah, mais quand même, tu sais, en prison, il y avait un repas servi, chaud, directement sur place, puis il y avait quand même l'esprit de communauté, et puis c'était une sorte de paradis fiscal, tu payais pas tes impôts, etc. » Voilà, on viendrait vanter tous les mérites de la prison, puis le prisonnier se dirait « Ah, bah finalement, c'est vrai que j'étais pas si mal en prison, et retournerait en prison. » C'est exactement la même chose que font les Galates, et on peut bien imaginer la frustration de Paul à ce moment-là. Et puis, soudainement, le ton change, et c'est là qu'on va passer au texte qu'on lira ce matin. Le ton change, Paul, après avoir argumenté, disséqué, expliqué, il change de ton pour s'adresser plus directement à son auditoire. Et là, il dit « Dites-moi ». Il commence son passage en disant « Dites-moi ». On passe à une nouvelle étape. Dites-moi. Alors, évidemment, Paul ne s'attend pas du tout à ce que ses lecteurs lui répondent. Dites-moi, ils ne vont rien dire, en fait, puisqu'il leur envoie une lettre à distance. C'est purement rhétorique. C'est purement rhétorique pour attirer l'attention. Parce que si les Galates ont l'impression qu'ils doivent justifier quelque chose, dites-moi, oula, on va devoir dire quelque chose. Peut-être qu'ils écouteront mieux cette fois-ci. Alors, je vous invite à lire ce texte qui se trouve dans Galates, chapitre 4, les versets 21 à 31. Et ça sera aussi affiché à l'écran pour ceux qui souhaitent suivre avec moi sur l'écran. Alors, Galates 4, à partir du verset 31. 21, pardon, merci. Dites-moi, vous qui voulez vivre sous le régime de la loi, ne comprenez-vous pas ce que déclare la loi ? Il y est écrit qu'Abraham a eu deux fils, l'un d'une esclave et l'autre d'une femme libre. Le fils de l'esclave a été conçu de manière purement humaine, alors que le fils de la femme libre a été donné à Abraham en vertu d'une promesse divine. Interprétons cela comme une image. Ces deux femmes représentent deux alliances. L'une de ces alliances, conclue sur le mont Sinaï, donne naissance à des enfants esclaves. C'est Agar qui la représente. Certes, cette Agar mont Sinaï est en Arabie, mais elle correspond à la Jérusalem actuelle, car celle-ci vit dans l'esclavage avec tous ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. Car il est écrit « Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Pousse des cris de joie, toi qui ignores les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Or vous, frères, vous êtes les enfants de la promesse, comme Isaac. Mais autrefois, le fils conçu de manière simplement humaine persécutait le fils né par l'intervention de l'Esprit. Et il en est de même aujourd'hui. Or que dit l'Écriture ? Renvoie l'esclave avec son fils, car le fils de l'esclave n'aura aucune part à l'héritage avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères, nous ne sommes pas les enfants d'une esclave, mais de la femme libre. » Ouf. C'est dense, c'est ardu, ça fait appel à notre connaissance biblique. Alors, décortiquons un petit peu ce texte ensemble, essayons de voir où il va nous amener. Accrochez-vous parce qu'on va un petit peu transpirer. Pour rappeler un peu le cadre de cette image, on parle d'Abraham. Abraham, un patriarche, Abraham le père du peuple d'Israël, l'ancêtre du peuple d'Israël. Puis cet Abraham avait deux femmes. Alors de ces deux femmes, il y avait Sarah, qui était une femme libre, c'est-à-dire pas esclave, une femme qui avait été choisie comme conjointe. Et puis à cette femme et Abraham, Dieu avait fait une promesse, celle qu'ils auraient un enfant alors que Sarah était stérile. Donc on a une promesse divine associée à cette femme libre. Mais comme l'accomplissement de la promesse tardait quelque peu, hein, plusieurs années, et que les deux se faisaient vieux, Sarah un jour a proposé à Abraham d'avoir un enfant avec son esclave égyptienne Agar. Et ça a fonctionné, en effet, ils ont eu un enfant. Et c'est vrai qu'il valait mieux, dans l'esprit de Sarah et Abraham, avoir un enfant que pas d'enfant du tout, même si ce n'était pas l'enfant direct, génétique de Sarah. Finalement, cet enfant, c'était une tentative humaine, des moyens humains d'accomplir la promesse de Dieu qui tardait à venir. C'était des moyens humains de recourir à cette promesse de Dieu. Et de cette union, on a un garçon qui est né qui s'appelle Ismaël. Et puis, plus tard, Dieu agit et il offre aussi un garçon à Sarah qui s'appelle Isaac, 14 ans plus tard. Et cet Isaac-là devient du coup l'héritier d'Abraham, à la fois d'un point de vue matériel mais aussi spirituel. C'est l'enfant qui a été promis dans la promesse, c'est lui qui reçoit aussi la promesse d'être descendant d'Abraham et de créer un peuple nombreux. C'est ce que Paul rappelle dans les versets 21 à 23, il fait un petit résumé de cette histoire-là finalement. Alors de cette histoire de famille banale, ou presque, Paul nous propose de voir toute une image, toute une allégorie. Ces deux femmes, finalement, ce sont deux alliances. Agar, parce qu'elle est égyptienne, donc c'est une femme qui est en dehors du peuple d'Israël, du peuple choisi par Dieu, parce que c'est une esclave. Elle représente une alliance qui est tout à fait humaine, qui n'est pas liée aux promesses de Dieu. Elle représente cette alliance qui passe par des moyens humains pour essayer d'accomplir ce que Dieu a promis. Et puis le texte dit, c'est l'alliance qui est conclue sur le mont Sinaï. Alors là, on se perd un peu dans l'allégorie, on a du mal à suivre, mais si je vous dis le mont Sinaï, à quoi pensez-vous immédiatement ? Les tables de la loi, exactement. L'alliance que Dieu fait avec son peuple dans le désert, en offrant les tables de la loi, en s'associant à ce peuple. C'est l'alliance de la loi, c'est associé à la loi de Moïse. Évidemment, on comprend que Paul fait ce lien parce qu'Agar est égyptienne, il y a un lien avec la sortie d'Égypte, cette nouvelle alliance de la loi, c'est la première alliance de Dieu avec son peuple. Et puis il dit aussi, cette alliance, elle est représentée par la Jérusalem terrestre. C'est-à-dire, au moment où Paul écrit, le lieu où se trouve le temple, le lieu où tous les juifs vont de temps à autre pour un pèlerinage, on ne peut pas accomplir les mêmes rites dans tous les synagogues et lieux qui se trouvent en Judée, on doit aller au temple pour certaines choses. Donc c'est le lieu qui cristallise cette alliance de la loi, le judaïsme, là où les juifs se rassemblent. Finalement, c'est le lieu où on met ses rites en œuvre pour essayer de se rapprocher de Dieu, pour essayer d'être pardonné par Dieu, pour essayer d'atteindre cette promesse que Dieu nous aime et veut nous sauver. Alors tous ces rites, ils sont très bons à l'époque où la loi a été donnée à Moïse, c'est même Dieu qui les a donnés au peuple, donc ce ne sont pas de mauvais rites. Mais au moment où Paul écrit, il y a autre chose qui est venue remplacer ces rites-là. Et puis, de cette esclave, on a une descendance qui est asservie de génération en génération, parce que ces rites s'apprennent de génération en génération, on reste dans la même structure. Et du côté de Sarah, alors on a finalement l'inverse. Sarah, c'est l'alliance de la foi, pas parce qu'elle a fait preuve d'une foi parfaite, au contraire, elle a demandé à Abraham d'aller vers Agar pour avoir un enfant, donc elle aussi a douté, elle a eu des doutes dans sa foi, mais elle représente l'alliance de la foi parce que c'est par elle que la promesse s'est accomplie, et la descendance qui vient de cette promesse vient de Sarah. Et puis en contradiction avec la Jérusalem terrestre, elle représente la Jérusalem d'en haut, celle qui n'est pas issue de tous ces rites, celle qui n'a pas besoin de vivre toutes sortes de rites pour permettre la présence de Dieu. La Jérusalem d'en haut, finalement, c'est ce qu'on attend, c'est le retour du Christ, c'est ce moment où toutes choses seront faites nouvelles et on pourra vivre dans la présence de Dieu sans devoir passer par tous ces rites de sacrifice, d'entrer dans un lieu saint pour vivre la présence d'en haut. Et puis de cette femme descend donc une descendance qui est libre, libre de tous ces rites. Alors, à partir de cette image, Paul propose un parallèle avec les Galates. Les Galates sont issus de cette femme libre, et les autres, les perturbateurs, ceux qui veulent les ramener à la circoncision, au calendrier juif, aux rites, aux différentes choses, sont issus de cette Agar, ils sont issus d'une descendance qui est esclave. Et si Paul utilise toute cette image qui est un petit peu compliquée, qu'on a essayé de décortiquer ensemble, c'est finalement pour arriver au verset 28, à une partie pratique pour les lecteurs. C'est pas seulement pour tirer des plans sur la comète et tirer des liens un peu étranges avec l'histoire du peuple, mais c'est pour vraiment essayer de comprendre qui sont les Galates et comment ils peuvent essayer de ressembler de plus en plus à ce que Dieu leur demande d'être. Et je vous invite à relire à partir du verset 28, en vous plongeant finalement dans la peau de ces Galates, parce que nous sommes aussi, j'espère, de cette colonne de gauche, de cette descendance libre qui a accepté que Christ était venu pour enlever tous ces rites qui nous retenaient esclaves, et nous sommes des descendants, entre guillemets, si on veut garder cette allégorie, de Sarah, des Galates, de la descendance libre. Alors relisons à partir du verset 28 et mettons-nous dans la peau de ces Galates. Or vous, frères, vous êtes les enfants de la promesse comme Isaac. Mais autrefois, le fils conçu de manière simplement humaine persécutait le fils né par l'intervention de l'Esprit. C'est-à-dire Ismaël persécutait Isaac. Et il en est de même aujourd'hui. Or que dit l'Écriture ? Renvoie l'esclave avec son fils, Agar et Ismaël, car le fils de l'esclave n'aura aucune part à l'héritage avec le fils de la femme libre, c'est-à-dire Isaac. Ainsi, mes frères, nous ne sommes pas les enfants d'une esclave, mais de la femme libre. Nous ne sommes pas les enfants d'une esclave, mais de la femme libre. Nous sommes associés à toutes ces caractéristiques de gauche, la promesse divine, l'alliance de la foi, la Jérusalem d'en haut. Paul l'affirme, nous sommes de cette descendance-là. Et c'est frappant de remarquer que Paul parle carrément de persécuteurs et persécutés. Les fils d'Agar sont persécuteurs, les fils de Sarah sont persécutés. Alors si on relit notre Genèse, ce passage d'Ismaël-Isaac, on pourrait être un petit peu étonné parce qu'il n'y a pas cette notion de persécution. Mais il y a quand même ce verset qui nous parle d'Ismaël qui jouait avec Isaac et a ri d'Isaac, ce qui n'a pas plu à Sarah, et c'est ce qui a fait que Sarah demande le renvoi d'Agar et de son fils. Et pour la tradition juive, toute cette histoire avait été comprise comme un moment où Ismaël s'était moqué d'Isaac, et puis donc c'était devenu une menace pour Isaac, qui devait hériter. Si son grand frère commençait à se moquer de lui, à le persécuter finalement, ça devenait une menace pour l'héritage d'Abraham, tant matériel que spirituel. Voilà pourquoi Paul parle de persécuteurs et persécutés. Et ce qu'on retient finalement de ce texte, c'est que les perturbateurs de l'église de Galate persécutent les Galates. Ces perturbateurs qui leur demandent en fait tout simplement d'accomplir quelques rites, c'est pas une persécution finalement au sens où on l'entend. On connaît des persécutions aujourd'hui, on en entend parler, qui sont bien plus violentes dans le monde chrétien et ailleurs. Finalement, simplement de demander de respecter un calendrier juif, c'est pas une très grande persécution, sauf aux yeux de Paul, parce que c'est une persécution de la foi libre. Pas une persécution physique sur les corps, mais une persécution de la liberté que Christ nous donne. Les perturbateurs demandent finalement aux Galates de laisser de côté cette liberté pour venir se remettre sous des rites, des normes d'esclavage. Et peut-être aussi qu'il y avait une persécution réelle physique sur les Galates, on ne sait pas. Alors aujourd'hui, quand on parle de liberté, d'esclavage, on a tout de suite des définitions qui nous viennent très rapidement, parce qu'on aime bien parler dans notre société de liberté, sois libre, prends ton envol. Quand on parle de ça, évidemment, on s'imagine tout de suite, affranchis-toi des normes de la société, de ce que la société dicte, la mondialisation, la commercialisation, le commerce mondial, etc. Affranchis-toi de toutes ces choses, trace ton propre chemin, et si tu peux voyager jusqu'au bout de la terre, c'est ça la vraie liberté. Découvre les cultures et les gens, c'est ça la vraie liberté. Là, on a tendance à dire, la liberté, c'est le droit de faire ce que l'on veut, quand on veut. Maintenant, je veux tout plaquer et partir à l'autre bout du monde, c'est ma liberté. Ou alors, je veux complètement renverser les normes de la société et vivre à ma manière, c'est ma liberté. C'est ça qu'on entend par liberté. Et à l'inverse, on dira, l'esclavage, c'est l'interdiction ou l'obligation de faire certaines choses. L'esclavage, c'est quand quelqu'un nous dit « tu dois aller faire ça » ou « tu as interdiction de faire ça ». Moi, je crois que dans ce texte de Galates et dans beaucoup d'autres textes de la Bible, ces deux mots ont un sens bien différent. Et lorsqu'on croit que la liberté que Christ nous a amenée, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, mais ça veut dire aussi de pouvoir vivre notre foi comme on veut, sans aucune norme, à notre manière, eh bien, je crois qu'on touche pas tout à fait juste dans ce que Paul a voulu mettre sous ces mots « liberté, esclavage », Paul, Jésus et d'autres. Ce texte nous apprend que la liberté, pour Sarah, finalement, et pour cette image de Sarah en tant qu'alliance de la foi, c'était pas seulement de pouvoir faire ce qu'elle voulait. Sarah n'était pas une femme libre au sens qu'elle pouvait aller et venir, voyager dans le monde entier, s'affranchir des normes de la société. Non, pas du tout. Sarah, sa caractéristique, c'est qu'elle était associée à une promesse divine. Et elle a attendu, compté sur cette promesse, même si parfois elle a échoué et qu'elle a eu des doutes, mais elle a persévéré et finalement la promesse s'est accomplie. Et je crois que la liberté dont nous parle la Bible, c'est de oser compter sur les promesses divines. Ce n'est pas s'affranchir de tout, mais c'est oser compter sur les promesses divines. Et l'esclavage, à l'inverse, si on reprend cette image d'Agar, l'esclave égyptienne, l'esclavage, alors ça serait recourir à des moyens humains pour arriver à cette promesse divine. Et finalement, on rejoint exactement ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est la foi, oser compter sur les promesses divines, ou parfois manquer de foi, et retomber dans des moyens humains pour atteindre une promesse divine. C'est exactement ce que proposaient ces perturbateurs aux Galates, finalement. Alors que Paul leur disait « Comptez sur la promesse divine, celle que vous êtes sauvés, celle que Dieu vous aime, celle que vous n'avez pas besoin d'autre chose que votre foi pour être sauvés », eh bien, les perturbateurs venaient demander aux Galates de recourir à des moyens humains. Peut-être vous êtes sauvés, mais ça serait mieux avec la circoncision, le calendrier juif, les fêtes, le pèlerinage au temple, etc., etc. Des moyens humains pour s'assurer du salut, pour s'assurer que notre foi est bien juste et bien fondée. Combien de fois nous-mêmes avons-nous recours à des moyens humains pour atteindre les promesses divines ? C'est tellement difficile, parfois, de croire en ce que Dieu nous a promis. Parfois, c'était il y a des années, alors on doute au fil du temps. Parfois, c'était très récemment, mais la promesse était grande. On se demande si vraiment on a bien compris, si vraiment c'est exactement ce que Dieu voulait nous dire. Et puis alors on essaye de mettre en place des choses pour recourir à des moyens humains et arriver à cette promesse divine. Combien de fois ça nous arrive ? Moi, ça m'arrive très très souvent. De douter que Dieu prendra soin de moi, de douter que j'aurai suffisamment de choses, suffisamment de biens, de vivres, de vêtements, etc. Pour pouvoir accomplir ce qu'il me demande d'accomplir aujourd'hui. Est-ce que vous aussi, vous vous reconnaissez dans ce texte ? Y a-t-il des moyens humains que vous mettez en place pour essayer d'arriver à ce que Dieu vous a promis ? Bien, ce texte nous appelle à résister à cette tentation de recourir à des moyens humains. Alors bien sûr, on ne va pas vivre en ermite, arrêter de travailler, arrêter de faire les différentes choses qu'on fait pour subvenir aux besoins de notre famille, aux besoins de nos enfants. On ne va pas arrêter tout ça, mais on peut apprendre à mettre des choses dans la balance. Et puis surtout, dans tout ce qu'on va choisir de faire, toutes nos décisions, réfléchir, est-ce que nous le faisons parce que ça fait partie de la vie, des choses qu'on fait pour vivre, ou est-ce qu'on le fait parce que ça nous rassure face à une promesse que Dieu nous a faite et qui tarde un peu à venir. Finalement, j'aimerais conclure par le dernier verset, qui est en fait le premier verset du prochain chapitre, qui, je pense, va avec ce texte et qui est comme une promesse pour les Galates. Et ça serait vraiment dommage de s'arrêter au verset 31 comme je l'ai fait jusqu'à présent, parce que ça nous laisse une note de culpabilité aussi, finalement, de se dire « Ah ben, on manque de foi souvent, c'est vrai. » C'est vrai, souvent on manque de foi, mais Paul nous accorde aussi une promesse qui est dans le verset suivant. Et cette promesse va conclure notre réflexion de ce matin, mais pas seulement, elle nous ouvre aussi sur le moment de Sainte-Cène qu'on va vivre ensemble tout à l'heure. Parce que finalement, si on peut compter sur les promesses divines, ce n'est pas parce que notre foi est suffisamment grande, mais c'est parce que notre Dieu est suffisamment grand et qu'il a offert Jésus sur la croix pour nous pardonner, pour nous assurer que nous sommes sauvés, nous pouvons vivre dans cette liberté sans l'esclavage des rites, sans l'esclavage d'avoir toujours tendance à chercher recours, à avoir recours aux moyens humains. Et je vous invite à lire ce dernier verset ensemble et à le prendre comme une promesse pour chacun d'entre nous. Ensuite, on pourra garder peut-être un temps de silence et puis David nous entraînera dans la suite du culte. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. Et là, je rebondis encore, la vraie liberté, pas celle que le monde nous offre, celle que nous avons décrite tout à l'heure, la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Amen. Que Dieu nous fortifie dans cette marche avec lui qui est bien difficile parfois.